soit du feu sur l'étoffe du ciel. Est-ce que, pour commencer, Alain Gabriel et Aïcha, est-ce que c'est une phrase ou des mots de Emiliane Carroas?
Exactement, oui. Ah. Ce sont deux vers, en fait, d'Emiliane que nous avons tenus à mettre en valeur pour que ces vers deviennent donc le titre de cet ouvrage, qui est sous-titré donc « Une vie d'Emiliane Carroas ». Nous avons tenu à l'article 1 plutôt que « La vie d'Emiliane Carroas », parce que sans doute que les vies d'Emiliane Carroas ont été multiples.
Ah oui.
Voilà, nous en connaissons une partie, nous avons eu la chance... J'ai eu la chance, en tout cas, de la rencontrer.
Et là, c'est le professeur de lettres qui parle, là, Alain Gabriel.
Oh, pas seulement, c'est surtout l'ami.
Quand tu dis une et la vie.
Oui, un petit peu.
C'est plus l'ami.
Mais parce que je suis persuadé que Emiliane, donc, qui a vécu 93 ans, a eu des vies multiples. Moi, je l'ai rencontrée donc quand elle avait environ 80 ans, et je l'ai accompagnée sur les 13 dernières années de sa vie, en la rencontrant assez régulièrement ici au Fou, où sa maison était toujours ouverte aux voyageurs de passage, ou celui qui ou celle qui souhaitait venir la voir. Mais avant cela, il y a eu donc d'autres vies d'Emiliane que je n'ai pas connues, et notamment toute cette vie de poète, donc commencée à Saint-Cadou dès le début des années 50.
Et quand c'est comme bon, allez, Emiliane était née en 1925 à Landivisiau.
À Landerno.
Ah pardon, j'entends pour moi. Et j'ai vu que son nom de jeune fille c'est Salin avec E-U-N et ça m'a interpellé forcément puisque Salin c'est mon nom mais moi c'est A-U-T-R-E-M-A-N.
Alors la plupart des Salins ont un A.
Bah comme moi, voilà.
Voilà, mais parfois il y avait, je pense tout simplement, des erreurs d'état civil.
Ah.
Et Emiliane est une des rares Salins avec un
oui.
E.
Ah, c'est ça le fin mot de l'histoire alors.
Oui, 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 je pense que voilà, ou c'était peut-être tout simplement
quand
on écrivait l'état
ça,
civil de manière manuscrite.
Ouais.
Donc.
Ah, c'est vrai.
Une lettre qui était mal formée. Bah, Emiliane, d'ailleurs, parlait peu de son nom de jeune fille. Elle était très attachée à son nom de femme.
D'accord.
Carroas, qui, dès son mariage, donc, et jusqu'à l'extrême fin de sa vie, a vraiment été... je crois qu'elle aimait ce nom, ses sonorités très bretonnes, un petit peu rocailleuses, qui complétaient bien son long prénom.
Alors... Elle est donc née à Landerno. Alors, il y avait une école à Saint-Brieuc. Est-ce qu'elle existe toujours, cette école? Une école d'institutrice?
Oui, alors dans chaque département de France, c'était dans la foulée des lois Ferry de 1880-1882, on avait institué donc une école d'instituteurs, puis une école d'institutrices, qui étaient vraiment les jeunes gens et les jeunes filles qui étaient les très bons élèves de cette époque.
Ah oui.
C'était notamment dans les classes modestes une véritable consécration intellectuelle que d'entrer à l'école normale d'instituteur ou d'institutrice. Pour l'anecdote d'ailleurs, bien souvent ces écoles étaient très éloignées l'une de l'autre au sein de la ville-préfecture,
ah oui,
afin qu'il n'y ait pas trop de rapprochement. Ce qui fait qu'à Saint-Brieuc, par exemple, l'école normale de jeunes filles était dans les beaux quartiers bourgeois de l'extrême centre-ville, tandis
d'accord.
que l'école normale de garçons est dans la périphérie ouest, pas loin de l'actuelle caserne de CRS, la fameuse CRS 13.
D'accord. Et Emiliane a grandi au Pays Pagan.
Alors, Emiliane a grandi à Landerno. Elle avait vraiment des paysages de prédilection qui se sont tôt révélés dans l'enfance.
Je fais trop d'erreurs ce matin. Ça fait déjà 3 ou 4 depuis le début de l'émission. Pardon, Alain Gabriel.
Non, je t'en prie. Ses grands amours nés dès l'enfance en matière de paysage, c'est vraiment cette côte qui court de Plounéour-13 à Brignogan et à Kerlouan. Et plus tard, elle aura très certainement, mais un peu plus tard dans sa vie, le même amour pour les terres donc des Monts d'Arrée.
Oui.
Elle écrit ceci, par exemple, à propos de ce fameux pays donc, de la région de Brignogan, Plounéour-13. Je sais la route poudreuse aux cailloux blancs que nous suivions, nous, une bande d'enfants, parcourant les 2 kilomètres qui nous séparaient de la mer. Le silence, la solitude, m'étaient de bonheur devenus nécessaires. Lorsque je revenais, les yeux agrandis d'une joie sauvage, ma mère me grondait. Mais que pouvait-elle contre cette vibration en moi d'un doux rire intérieur? Et on a déjà ici toutes les Miliennes indisciplinées, oui, sauvages, au meilleur sens du terme.
Et ça, c'est au début du livre. Sa voix propre. C'est au début du livre, Aïcha. J'ai reconnu ces photos aussi, évidemment. J'ai reconnu l'endroit, j'ai reconnu les endroits de... par rapport à Mondaré, où il y a des endroits que je connaissais pas avec le livre que tu as fait avec Hélène Duguesou. Et j'ai reconnu Brignogan tout de suite et la Côte Nord. On reconnaît bien le pays pagan. Tu as collé au texte en fait d'Alain Gabriel au niveau des photos.
Pas uniquement. J'ai surtout d'abord souhaité m'imprégner de l'âme d'Émilienne que je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de rencontrer de son vivant. Donc j'ai longuement écouté Alain Gabriel. Avant de lire son texte, surtout écouter comment Émilienne ressentait le paysage, comment elle vivait le moment, la poésie, l'instant, les paysages sauvages, la liberté. Donc il y avait des mots comme ça qui m'accompagnaient, Émilienne m'accompagnait. L'idée n'était pas d'illustrer le texte d'Alain Gabriel, mais vraiment de permettre au lecteur d'être sur les pas d'Émilienne. Et en fait, mes photos, c'est un petit peu comme si c'était ses yeux qui s'étaient posés sur le paysage qu'on pouvait voir à travers son regard. Mais bon, voilà, j'ai juste essayé. Je n'ai pas la prétention de peindre le paysage à sa place, mais au moins de proposer ce qu'elle aurait pu voir.
Comment vous avez travaillé ensemble, Alain Gabriel et Aïcha?
Avec beaucoup de bonheur. Je crois qu'on peut le dire comme ça. En fait, Aïcha et moi, on s'est rencontrés plutôt tardivement. C'était au déclin du mois d'août de 2021, au festival littéraire ou au salon littéraire de Landévennec.
D'accord.
Et l'entente a été immédiate, mais là, nous n'avons échangé que quelques phrases. Et puis, quelques semaines plus tard, il m'est venu l'idée que je voulais écrire ce livre depuis longtemps sur...
Je voulais en venir là. C'est venu quand, ça, Alain Gabriel, cette idée d'écrire ce livre?
J'avais toujours promis à Émilienne, du temps où donc, nous nous rencontrions, que je réunirais ses œuvres complètes, qui sont hélas extrêmement dispersées parce qu'elles ont été publiées à de petits tirages dans de petites plaquettes.
On en trouve toujours, Alain Gabriel.
C'est très difficile. C'est plutôt au hasard des bouquinistes, quoi. Etc. Émilienne elle-même était si généreuse qu'elle donnait ses livres. Souvent, quand on publie un livre, l'éditeur donne à l'auteur donc un certain nombre d'exemplaires d'auteurs, entre une dizaine et une vingtaine. Émilienne possédait 10 ou 15 donc de ses livres. Et puis, à mesure que des personnes passaient chez elle, elle disait « Tiens, ben voilà mon dernier livre, je te l'offre », jusqu'à se retrouver parfois pour au moins la moitié d'entre eux dépourvus ne serait-ce que d'un seul exemplaire.
Il faudrait poser la question à Roger Pleybert, le bouquiniste de Daoulas.
Exactement, qui bien entendu est sûrement une personne ressource pour ça. Mais j'ai eu la chance pour ma part, sur la vingtaine de recueils publiés, de pouvoir en avoir une dizaine. Et par les filles d'Émilienne qui vivent maintenant dans l'extrême nord du Finistère, au-delà de Morlaix, de retrouver les exemplaires que je n'avais pas, puisque l'une de ses filles, notamment, avait eu la sagesse de conserver plus précieusement que sa maman les œuvres de sa maman.
Ah, c'est absolument génial. On fait une première pause musicale, c'est le choix de Alain Gabriel Monotte.
Followed her to the station with a suitcase in my hand. Yeah, I followed her to the station with a suitcase in my hand. When the train the station. I looked her in the eye. Well, the train coming to the station. And I looked her in the eye.
The Rolling Stone. Donc ça, c'est un album assez ancien, 1969, hein, Alain Gabriel. Donc j'imagine que tu es un fan des Rolling Stones.
Ah, je suis un grand, grand fan des Rolling Stones. Je suis un fan ultime.
Est-ce que tu sais quel est le chiffre de cet album, le combien? Allez.
Ah, cet album-là, des Stones, je crois que c'est leur 9e album officiel.
Ah, je crois que c'est le 8e.
Ah, alors, tu as raison.
Non, mais je sais pas. Moi, je ne savais pas. J'ai juste regardé. Hein. Donc, j'ai aucun mérite. Hein. Tu étais vraiment très proche. C'est Let It Bleed. Let It Bleed.
Let It Bleed.
Let
oui.
It Bleed.
Oui, oui.
Où on trouve le morceau Gimme Shelter dessus aussi.
Exactement.
Et ça, c'est une très belle pochette.
Oui,
avec le gâteau.
Le gâteau, la pizza. Et quand on le retourne, elle s'est écroulée.
Ah, c'est ça.
Voilà.
Donc
les années Stone... 60 se délabrent.
Ouais, voilà, j'avais que 2 ans, moi, 69.
69.
grand fan des Rolling Stones, donc. Tout
oui, qui m'accompagne.
Que tu as vu plusieurs fois.
Au quotidien, que j'ai vu plusieurs fois. Ouais, ouais, ouais,
bon, j'ai jamais eu cette chance. Ouais.
Et je suis beaucoup, enfin, j'ai beaucoup suivi la carrière de leur bassiste Bill Wyman, qui a tourné pendant 30 ans avec eux et qui ensuite a formé un petit groupe plus amical qui s'appelle The Rhythm Kings et que j'ai vu au moins 7 fois dans différents lieux du monde et beaucoup en particulier en Cornouaille anglaise puisqu'il venait de temps en temps dans le Devon et dans la Cornouaille
anglaise. Ah oui, le Devon. Alors on a compris donc pourquoi, pour le coup, c'était le choix d'Alain Gabriel Monnot, The Rolling Stone, Love in Vain, un très très beau morceau des Rolling Stones. C'est un livre qui se lit très facilement, c'est-à-dire qu'en fait qu'on passe d'un poème à du texte et à la vie d'Emilian Kerouas, Et évidemment, il y a les photos d'Aïcha. Tout ça coule, évidemment, comme une rivière, un peu une rivière des monts d'Arrée, on dira.
L'idée, c'était de parler de la poésie d'Emilienne, mais surtout de toucher le cœur de tout le monde. Souvent, quand on prononce le mot poésie, les personnes ont peur. Alors, elles pensent qu'ils ne comprennent pas. Je dis bien, ils pensent, parce qu'en fait, on n'est pas obligé de tout comprendre, on peut juste ressentir. Je leur donne souvent un exemple. Lorsque vous écoutez une chanson en anglais, vous comprenez les paroles ? Pas toujours. Et non. Pourtant, parfois, on a envie de pleurer, on a envie de rire, on a envie de chanter. Donc, c'est pareil. Et il y a une musicalité, soit dans les mots. La poésie, c'est aussi dans l'image. Donc, ça peut être une peinture, ça peut être une photo, ça peut aussi être une démarche, de regarder simplement un chat marcher. Dans sa grâce et son côté sauvage. C'est de la poésie. Donc la poésie, c'est juste observer, accueillir la beauté. La beauté sans être non plus complètement naïf. Il n'y a pas de lumière sans obscurité.
Et c'est ce que tu disais l'autre fois aussi, c'est-à-dire que la poésie, elle peut être dans chaque geste de la journée, du quotidien, etc. On la voit où on veut la voir, en fait, finalement, la poésie.
C'est juste un instant de grâce. Ouais, ça peut durer 2 secondes dans une journée.
C'est comme un chevreuil qui passe sur un chemin et tu te dis que c'est magique. Et là, c'est de la poésie. Exactement. Pour le coup.
Ouais. Et il faut juste être disponible. Je me souviens un petit exemple la semaine dernière. Je me suis rendue à une salle de danse dans laquelle j'étais jamais allée auparavant. J'ai rejoint des amis de mon club et c'était le dernier étage. Et lorsque je suis arrivée dans ce dernier étage, enfin c'était pas une tour, il y avait 3 étages. Quand je dis ça comme ça, on dirait que
c'est pas un building.
Non, c'était pas le building de Crozon. Et lorsque je suis arrivée en haut, j'ai eu un émerveillement soudain à travers les fenêtres. En fait, on était à la hauteur de la cime d'un cèdre.
Ah oui.
Et je me suis dit, on est à la hauteur des oiseaux. Donc je me suis dit, il y a peut-être un nid. Et je me suis émerveillée. Je dis, mais regardez, on est à la hauteur des branches et de la cime de l'arbre. Et là, les personnes autour de moi m'ont dit, ah oui, je n'avais pas remarqué. Ben voilà, la poésie, elle était juste à la fenêtre.
Oui, complètement.
Elle est pour tout le monde.
Tu as découvert Emilienne avec Alain Gabriel, Aïcha ?
Non, Emilienne...
Tu connaissais déjà, de par le fait de connaître un peu les Monts d'Arrée, d'avoir...
Pas seulement.
De t'être promenée, de...
Nous avions des amis en commun, des amis artistes de la presqu'île, des peintres, des écrivains, dont Gilles Baudry, poète.
D'accord.
Un ami Carlo Aventurero, un peintre de grand talent et sculpteur qui habite à Argol, à la Ferme des Arts, qui présente son travail toujours, on peut toujours aller le rencontrer, et qui était un ami proche d'Emilienne avec sa femme Françoise. Il venait la chercher régulièrement au Fou. Et seulement, je ne fais que la croiser. On m'a toujours parlé d'Emilienne. On m'a dit qu'il fallait absolument que je la rencontre, que j'échange avec elle. Et c'est un rendez-vous manqué.
Oui, ça arrive. On va... écoute, c'est la vie. Une petite virgule, monsieur Seb, et on retrouve tout de suite nos amis.
Pad, bla, bla.
Pad, bla, bla.
Pad, bla, bla.
Rendez-vous manqué, que disait Aïcha, du poids de guitare avec Emilienne Kerwas. Alain Gabriel, on parlait de magie tout à l'heure, des Monts d'Arrée, de Saint-Cadou, de Saint-Rivoil, de tout cet endroit un petit peu que tu appelais magique, c'est vrai. Cet endroit a beaucoup inspiré finalement Emilienne Kerwas.
Ah oui, je crois que c'est véritablement une révélation pour elle. La carrière des instituteurs donc, et des institutrices de cette génération se déroule traditionnellement en 3/3. C'est-à-dire qu'on est d'abord entre 20 et 30 ans ou 20 et 35 ans dans une toute petite commune très isolée. Puis on vient dans une petite ville pour Emilienne et son mari donc d'Aoulas. Et puis on termine donc triomphalement sa carrière dans une grande ville, Quimper pour les sudistes et Brest pour les nordistes dans le Finistère. Et dans le cas d'Emilienne, le fait d'être nommée cette année à Saint-Cadou, qui est véritablement un endroit extrêmement perdu et qui aurait pu effrayer un certain nombre de gens, je crois, agit véritablement comme un révélateur. évidemment, cette jeune femme qui est déjà très brillante, qui a des dispositions pour la littérature, pour l'écriture, aurait pu faire sans Saint-Cadou, mais il me semble que la rencontre de Saint-Cadou est véritablement le coup du destin extraordinaire qui va la mener à être sous la magie, et le terme ici n'est pas galvaudé, d'un lieu totalement hors du commun. Et ce n'est pas un hasard si son premier recueil de poèmes, publié justement au moment où elle quitte Saint-Cadou en 1957, porte le nom de cette commune. Tout ici est fait pour attirer donc son émerveillement et sa curiosité. Émilienne me racontait que, bien que maman déjà de quatre jeunes enfants, donc née dans les années 50, ou à la toute fin des années 40 peut-être pour les aînés, les enfants, les scolaires, donc les élèves rentraient chez eux, elle confiait ses enfants quelque temps à une jeune fille du village de Saint-Cadou, qu'elle a longuement aimée d'ailleurs toute sa vie, qui s'est beaucoup occupée de ses enfants, et elle allait, quel que soit le temps et la saison, vagabonder donc autour de Saint-Cadou, dans les chemins de la montagne, et on y trouve évidemment toute une part d'une inspiration qui est là à son meilleur.
C'est assez incroyable, parce qu'on était allé avec M. Seb dans cette école qui n'est plus une école, je ne sais pas depuis quand, Aïcha ou Alain Gabriel, je ne sais pas depuis quand.
Je ne sais pas quand l'école a été déclassée, les enfants maintenant vont à l'école à 6 ans.
Oui, c'est ça. Et c'est un endroit incroyable que moi j'avais découvert, j'avais 17-18 ans, un stage de radio, j'ai grandi à Brest, moi, et j'avais trouvé cet endroit incroyable. Il y avait quelque chose, et il y a un marronnier, c'est un marronnier, je crois, dans la cour, il est extraordinaire, et je me suis toujours dit qu'il y avait un truc dans cet endroit, et en regardant le bouquin, j'avais pas fait le lien, tu vois, institutrice, Saint-Cadou, Émilienne Cara, ouais, ok, c'est un gîte aujourd'hui qui a été repris, qui a été tenu par Rose et Youn pendant très longtemps, et je me suis dit, mais oui, quand j'ai vu la photo d'Aïcha, je me suis dit, mais oui, bien sûr, c'est cette école, c'est ce gîte, c'est le gîte de l'école, comme on l'appelle, le gîte de l'école d'ailleurs, et cet endroit, avec cette espèce, la petite cour derrière, tout ça, il y a un truc. Je ne sais pas, je suis pas quelqu'un de mystique, forcément, mais...
Quelque chose émane très profondément de Saint-Cadou, l'école qui est à peu près le grand bâtiment unique
à l'entrée
qui écrase
village,
presque l'église, qui est petite, qui est basse, qui est d'une grande beauté, mais qui semble un petit peu s'effacer devant la haute silhouette de l'école, comme si on avait là les deux véritablement monuments, sans que ce terme soit pédant, emblématiques de la commune.
Et ce qui est finalement étonnant sans l'être, ça devient un lieu culturel, cet endroit. C'est vrai, on enregistre de la musique, ça a été des studios, etc. C'est comme si Émilienne Kerouas avait lancé le truc, je ne sais pas comment dire.
Émilienne était, si on employait un mot moderne, un petit peu une incubatrice.
C'est-à-dire qu'elle était
très en avance sur son temps. Quand elle est publiée, par exemple, en 1957 chez son éditeur Jean Germain à Bordeaux. Elle est la première femme, la première jeune femme. Cet éditeur sait repérer des belles voix poétiques, mais en homme de son temps, il n'a publié à ce moment-là que des hommes. Et il y a donc également une sorte d'audace à ce qu'une jeune femme fasse entendre, laisse entendre sa voix personnelle, singulière.
Tout à fait. Et justement, On va revenir avec Aïcha, mais en musique, avec justement le choix que tu as fait ce matin, on en reparle, ça va être assez court, mais très très beau.
Ah, yeah.
C'est une bande originale, pour le coup, Aïcha, ce choix. C'est Into the Wild.
Oui.
Un livre ou un film qui t'a marqué, parce qu'elle est... C'est un livre d'abord, hein ?
Oui, mais moi j'ai vu le film d'abord, oui. J'ai découvert l'histoire. Et ça a été un choc émotionnel.
Ah oui, je comprends. Ça a inspiré beaucoup un de mes fils aussi, qui est parti vivre, qui vit dans une cabane aujourd'hui,
ah oui.
Et qui est maraîcher bio. Et c'est un livre qui l'a de toute évidence beaucoup inspiré.
Ah oui, c'est... je sais pas s'il y a pas... J'ai l'impression d'y penser chaque jour en fait.
Ah oui ?
Et cette musique... Elle est d'une
oui,
puissance.
Très belle, oui.
Ça me fait vibrer, en fait, tout l'intérieur. Quand, j'ai l'impression, quand j'arrive dans les Monts d'Arrée, par exemple, comme c'est la couverture de notre livre,
oui.
On est sur le sommet du Chêne Cador, on est en plein hiver, il fait très froid, il n'y a absolument personne, c'est le silence total, et il y a les premiers rayons de soleil qui se lèvent, et qui commence à caresser la lande qui est
aussi
par
hein,
le froid, ouais, oui. Et la brume qui s'élève en volute, comme
magnifique.
Ça, dans le ciel de plomb. Et là, il y a une espèce de rudesse.
Il est quelle heure, là ?
Alors, il n'est pas très tard, parce qu'on est en hiver, donc le soleil se lève tard, on va dire il est 8h30, 9h. Mais là, on se sent tellement vivant. C'est un cri, en fait, cette musique, pour moi, c'est un cri qui vient des origines. Un cri qui est à la fois animal, à la fois humain, à la fois terrien. Je ne suis pas du tout dans l'ésotérisme. Moi, je sens, quand je mets mes mains sur une roche, je ne sens pas de la chaleur. Enfin, je ne fais pas des câlins aux arbres. C'est plutôt
il y a beaucoup d'histoires comme ça dans le monde, où des endroits, tu sais, des montagnes qui sont ésotériques, etc. J'accroche pas trop non plus.
Voilà. C'est vraiment la puissance des origines, ce qui nous lie à la terre en tant qu'être vivant.
Et le titre du morceau, c'est The Wolf, donc le loup en plus. Et c'est Eddie Vedder. Voilà, c'était le choix de Aïcha. C'est un très beau choix. On a de la chance d'avoir nos deux invités, Alain Gabriel Monotte et Aïcha Dupois de Guitare, qui ont fait deux très très bons choix. Oui, je suis enroué un petit peu. C'est ça que vous voulez me dire, monsieur Sam. Je regarde le conducteur, où c'est qu'on en est. Soit du feu sur l'étoffe du ciel, une vie d'Emiliane Carroisse. Aux éditions, on n'a pas dit encore, attention quand même, édition Calligramme, Bernard Guillemot. Il fallait effectivement rajouter, Alain Gabriel, une vie d'Emiliane Carroisse, c'est important.
Oui, deux projets en fait avaient cours en même temps. D'une part, réunir les œuvres complètes d'Emiliane Carroisse. Ce que nous avons convenu de faire donc avec notre éditeur, donc Yvan Guillemot.
Alors que je comprenne bien, Alain Gabriel, dans ce livre, il n'y a pas les œuvres complètes.
Non, pas du tout. Le livre que nous avons écrit, là, Aïcha et moi, c'est ce qu'on peut appeler, si vous voulez, j'essaye de trouver le moins mauvais terme, un exercice d'admiration.
Et en amont, vous avez fait un travail de recherche et de réuni toute l'œuvre entière d'Emiliane.
D'abord, songer, parce que c'était une promesse que j'avais faite à Emiliane avant sa disparition, de réunir l'ensemble de ses œuvres. Ses œuvres, souvent publiées chez de petits éditeurs,
c'est ça,
et de petits tirages, étaient pour beaucoup d'entre elles difficiles à trouver. Il y a une vingtaine de recueils, un peu plus.
Parce qu'elle n'avait pas chez elle, quoi.
Elle
ne
les
ça,
avait
hein.
pas chez elle.
Comme tu disais,
elle
les distribuait beaucoup,
elle
etc.
Elle était généreuse. Voilà. Déjà passée, elle donnait ses exemplaires d'auteurs, et puis un jour, elle n'en avait plus qu'un, puis elle n'en avait plus aucun. Donc pour ma part, j'avais une dizaine de ces recueils. J'ai pris contact donc avec sa fille, qui a été capable de me faire trouver donc les disques qui me manquaient, si on considère qu'il y en a une vingtaine. Et l'idée donc pour cette année 2024, c'est que soit publiée donc une rétrospective, c'est-à-dire l'œuvre complète d'Emiliane Carroisse, mais de manière assez curieuse, finalement, par des hasards d'édition, l'exercice d'admiration qu'Aïcha et moi avons consacré à Emiliane dans ce livre, donc « Soit du feu sur l'étoffe du ciel », a été publié avant les œuvres complètes.
C'est beau, ça, exercice d'admiration. C'est très beau,
j'aime
beaucoup.
Je crois que quand on a rencontré Emiliane, on ne peut pas avoir autre envie en tête que justement de lui offrir un exercice d'admiration oui. à elle qui a été si présente dans la vie de tant de personnes ici au Fou et qui était si attachée justement à ce qui nous retient et nous relie, notamment cette notion de paysage, qu'il soit maritime ou sylvestre. Émilienne aimait beaucoup les arbres. Aïcha photographiait et photographie encore beaucoup les,
bien sûr,
arbres.
Les arbres.
Tu parlais tout à l'heure du marronnier.
Oui, incroyable, le marronnier.
Émilienne n'était pas du tout prétentieuse intellectuellement, mais c'était un motif de plaisanterie pour elle que de rappeler qu'un certain nombre de gens, entendant le nom de la localité où elle vivait, donc le Fou, faisaient à tort... avait à tort l'idée qu'il puisse s'agir d'une sorte d'aliénation, alors que le nom de la commune vient évidemment du latin fagus, donc qui désigne le être, l'arbre. Donc, et ça l'amusait beaucoup de vivre dans une ville dont le nom venait d'un arbre.